France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Benjamin Wagon à la console. Ouvrez grandes vos oreilles pour mieux goûter ce texte de Victor Hugo, lu par Jacques Weber. Nous sommes tes fils, révolution.
Oui, pour transformer la charité en fraternité, la fainéantise en travail, l'oisiveté en utilité, l'iniquité en justice, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour. Le préjugé en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rail, l'instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les rois en homme. Oui, pour ôter des religions, toutes les religions, l'enfer et des sociétés le bagne. Oui, pour être frère, sœur, du misérable, du serf, du fella, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné et du damné. Oui, oui, nous sommes tes fils, révolution.
L'heure philo. Patricia Martin. Sur France Inter.
Quelle fougue et quelle ardeur dans ces mots que nous avons choisis pour ouvrir une émission consacrée à l'émeute, aux émeutes, à ces secousses de l'histoire marque d'une colère devenue impossible à contenir. Nos deux invités, ça tombe bien, ont réfléchi à la question. Jacques Deschamps, vous avez été professeur de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon et vous êtes l'auteur d'un essai publié au Lien qui libère intitulé Éloge de l'émeute. Michel Kokoreff, vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, chercheur au CRESPA CNRS, et vous publiez un livre intitulé tout simplement Émeute, qui est sorti chez Anamosa. Jacques Deschamps, il y a toujours eu des émeutes dans l'histoire, hein, on va revenir d'ailleurs sur la définition exacte du terme, mais parlons d'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que l'émeute, c'est au fond le dernier recours des dominés de la société ?
Je suis pas sûr que j'emploierais ces termes en tant que tels, dernier recours.
Lesquels employeriez-vous ?
Parce que je crois que l'émeute, ça va être certainement le sens un peu de la discussion qu'on va avoir, répond à une logique qui n'est pas du même ordre que celle des phénomènes, des mouvements politiques qui peuvent animer une société. C'est quelque chose qui se joue à un autre niveau.
À quel niveau ?
À un niveau, alors que moi j'appelle, enfin c'est pas moi d'ailleurs, je reprends l'expression, peu importe de qui, on s'en fout des citations, mais à un niveau infrapolitique. Infrapolitique, ce qui veut pas dire que c'est moins que le politique ou que c'est inférieur, bien au contraire que c'est quelque chose quasiment d'un moment fondateur du politique ou refondateur. Quand tous les liens sociaux sont effectivement défaits, atteints, quand les gens sont directement interpellés dans leur capacité de survivre simplement, alors il y a cette possibilité.
C'est pour ça que je parlais
d'émerger.
De dernier recours.
Alors mais, en sens, oui.
Bon, mais il y a une colère forcément dans l'émeute.
Oui, bien sûr. Ouais. Colère, je préfère le terme qu'emploie Kokoreff, qui est très bien développé à un moment dans son livre. Il parle de la rage. C'est un peu différent, mais en tout cas, il s'agit d'une espèce de, entre guillemets, pathologie sociale. À propos de laquelle on va employer ces termes dans le discours général, dans le discours médiatique, pour la dévaloriser immédiatement, pour l'ostraciser en disant ça c'est la folie, c'est la barbarie, la sauvagerie, alors que Moi, c'est alors vraiment mon thème. Le pathos qui est engagé dans l'émeute, qui est produit, c'est quelque chose qui a à voir avec une expérience du monde à un moment donné très positive et même régénératrice.
Alors, Michel Coquerel, vous parlez même de la diagonale de la rage. Qu'est-ce que c'est que cette diagonale de la rage ?
Oui, et ça, c'est le titre d'un précédent livre qui consistait à dire que la rage peut être un moteur des mouvements sociaux, et j'en avais proposé une histoire depuis le début des années 70. Bon, sans doute que on aura en tête le cas des Gilets jaunes, où il y a beaucoup de slogans qui va tourner autour de ce terme, mais en même temps, il y a eu une période de rage des peuples partout, un peu dans le monde. Bon,
mais depuis la nuit des temps, enfin, c'est quelque chose de très ancien. Alors, qui appartient à l'histoire, mais il y a quand même toujours eu des...
Disons qu'il y a des séquences. Alors après, voilà. Peut-être on distinguera des temporalités, des séquences, mais ce qui est certain, enfin, ce qui me semble admissible, en tout cas, c'est de définir l'émeute comme, d'une part, la propagation de l'émotion qui est causée par la mort d'un jeune, en général issu de minorités ethniques, racisées, issues de l'immigration, suite à un contact violent avec la police, restée dans des circonstances troubles. Bon, ce qui fait que ce qui s'est passé en 2023, d'ailleurs, a été assez nouveau de ce point de vue-là, puisqu'on avait la vidéo.
Bon. On va parler, c'est Naël,
mais la propagation de l'émeute fait que, effectivement, l'individu est soudé dans la collectivité et fait entendre, et effectivement c'est peut-être pour ça que c'est pas tant le dernier recours qu'un pas de côté, un déplacement par rapport à des modes d'expression, partis, syndicats, manifestations, etc. C'est que il y a un déplacement pour faire entendre la voix des sans-voix. Et ça, c'est quand même quelqu'un qui s'appelait Martin Luther King qui en parlait dans les années 60, dans une période d'émeute raciale importante. Il y en aura encore suite à son assassinat. Faire entendre les sans-part, alors ça peut être les jeunes des quartiers populaires, ça peut être éventuellement ceux qui sont entravés, les gilets jaunes entravés du périurbain, ça peut être d'autres catégories, parce que ce qui est assez fascinant, on en reviendra sans doute dans la discussion, c'est qu'aujourd'hui l'émeute est partout. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sporadique, simplement contenue dans les banlieues ou dans des luttes antipolicières ou éventuellement interethniques ou interraciales. On a vu des émeutes anti-émigrés en Angleterre, bon, qui ne sont pas vraiment progressistes en août 2024. Bon, alors dans ce sens-là, effectivement, peut-être que c'est le dernier recours. En tout cas, c'est comme si l'émeute était un mode d'action qui fonctionnait encore.
Et en tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Vous y faisiez allusion là, en parlant de la vidéo au sujet de Naël, mais ça devient, puisque c'est filmé, ça devient hyper médiatisé.
Viral.
Ça devient spectaculaire. Est-ce que c'est un spectacle aussi, d'une certaine manière, que d'aucuns voit comme un spectacle.
Alors, on est dans une civilisation de la guerre des images, donc effectivement, les images sont des outils mobilisés par éventuellement ceux qu'on appelle les émeutiers eux-mêmes, mobilisés par la police, mobilisés par les chaînes de désinformation continue, j'insiste, chaînes de désinformation continue, bon, et chacun, bon, effectivement, utilise ces images, mais le fond du fond, c'est pas les images, c'est pas le spectacle, c'est d'un côté, il y a
eu mort... De toute façon, ce sont des images du réel.
En plus, ce sont des images du réel, mais le principal, c'est pas les réseaux numériques ou l'industrie numérique qu'il faut accabler. Ça a été les propositions de la commission sénatoriale qui a fait suite aux émeutes de 2023. C'est pas ça le problème. C'est effectivement qu'il y a un homicide policier, il y a un jeune qui se fait tuer à bout portant, on sait pas exactement pourquoi, et en même temps, on sait que cette violence systémique, elle est au quotidien dans les quartiers, sous la forme de contrôle au faciès, sous la forme de poursuites. Bon. Et c'est ça le sujet qu'est venu poser, en tout cas, les émeutes urbaines dans les banlieues depuis 20 ans. Dans d'autres circonstances, en fait, on retrouve, ce qui est important, je pense qu'on essaye de faire tous les deux, c'est qu'il y a une rationalité de l'émeute. Mmh. Voilà. Il y a, en tant qu'elle exprime quelque chose, la rage, la colère, la joie, donc des affects positifs. On sait depuis Marx que les affects, ça, c'est mobilisateur. Bon, et puis en même temps, il y a une dimension instrumentale ou pratique, c'est que en fait, l'émeute, elle clarifie les choses, elle produit des effets. Rien n'est jamais réglé, mais On parle de la police, on parle de la formation, on parle d'une instance qui serait indépendante. On parle qu'en Allemagne, la police ne se comporte pas de la même manière avec les jeunes.
Bon. Jacques Deschamps, donc, si vous ne prenez pas le micro, il va vous le piquer jusqu'au bout. Hein,
donc, ça a des effets. Bon, effectivement, bon, bah, on peut dire oui, mais c'est nul. Bon, c'est nul parce que c'est de la violence destructrice et en fait, ça n'a pas d'effet sur le gouvernement. Bon, mais on a vu effectivement que quand on manifeste pendant 6 mois contre la réforme des retraites, on a vu ce que ça donnait. Donc, je veux dire, on n'en est pas au point où on peut faire
C'est pas nul, on est bien
sur
d'accord.
Sur le côté image, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans les 3 jours d'émeute en 23.
6.
26, ouais. Qui n'était pas, 6 jours qui n'était pas présent en 2005. Alors, qui tient effectivement à cette utilisation massive de l'écran, du fait qu'on en s'envoie les uns aux autres les images de ce qu'on est en train de
37
vivre.
37 secondes d'image, hein, la vidéo de...
C'est qu'il y avait l'utilisation de ces fameux énormes pétards utilisés par les émeutiers, avait des effets de feux d'artifice, il y avait des images absolument incroyables. Vécu comme tel par les animateurs, mais vécu aussi comme tel par les spectateurs. Moi, il y a des moments, il y a des images qui m'ont fait penser à ces scènes absolument ahurissantes du film de Coppola, Apocalypse Now, où on voit cette scène de bataille qui est dans une sorte de capharnaüm comme ça lumineux d'atmosphère de fête et de guerre, et que c'est quelque chose qui a été reproduit là. Alors on peut dire, bon, bah, c'est un effet. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a un sens très profond à ça. Encore une fois, sans présumer de ce qu'il y a dans la tête des jeunes gens, je ne dis pas que quand le type va prendre son pétard, l'envoyer, il vise à faire tel effet, mais qu'il y a quelque chose dans la synergie collective qui produit ça, et qui produit là littéralement quelque chose. Alors c'est là où c'est une des façons de se rebrancher sur l'histoire. Ce que je veux dire, je vais employer le terme, il peut prêter à confusion, il est à discuter, mais si une espèce de continuité depuis les grandes fêtes, les carnavals si bien décrits à l'époque de Rabelais, etc., jusqu'à maintenant, le peuple a toujours fait la fête, toujours,
et
beaucoup,
toujours fait peur.
Longtemps. Et la fête a toujours fait peur. Et c'est quelque chose un peu de cet ordre qu'on a vu réapparaître là dans ces scènes.
Alors justement, on va remonter un petit peu dans le temps avec Éric Vuillard, qui est donc l'écrivain, cinéaste et scénariste que l'on connaît, prix Goncourt en 2017 avec L'ordre du jour.
Ce qu'il y a de tout à fait frappant, je crois, pour nous aujourd'hui, ce qui crée encore une sorte de solidarité aussi entre ce mouvement de la guerre des paysans, qu'on appelle aussi le soulèvement de l'homme ordinaire, qui est d'une certaine manière une expression que j'aime mieux, qui me paraît plus adéquat par rapport au phénomène, à ce qui s'est véritablement produit, c'est que justement, c'est un mouvement hétérogène. Et nous, dans le monde où nous vivons, nous avons affaire aujourd'hui, une fois que le communisme réel s'étant effondré, que le prolétariat s'est dissous, on a affaire, ou en tout cas on s'aperçoit qu'on a affaire à des mouvements hétérogènes. Quand on voit les Gilets jaunes, c'est un mouvement où on trouve des gens d'appartenance professionnelle différentes, qui appartiennent à ce qu'on appelait des classes sociales avant, assez différentes au fond. Et ça, c'est pas sans lien au fond avec ce qui s'est passé au moment de la guerre des paysans, du soulèvement de l'homme ordinaire, où on trouve des petits artisans, des paysans, donc des gens des ruraux et des gens des villes, des étudiants pauvres, donc des intellectuels, et puis des ouvriers aussi des mines, etc. Donc du coup, comment dire, ça fabrique fatalement une sorte de rapport au débat, à la différence, qui est autre chose qu'un monde dans lequel on a un prolétariat qui se soulève avec une doctrine, déjà un corps de doctrine.
Alors cette guerre des paysans dont parle Éric Vuillard, c'était au XVIe siècle, hein, un conflit qui est à la fois social et religieux, c'est ça, dans le Saint-Empire romain germanique. Ces mouvements hétérogènes dont il parle, je voudrais bien qu'on reprenne cette idée. Est-ce que, pour vous, ça l'est toujours, sachant que vous écrivez, si je vous ai bien lu, Jacques Deschamps, qu'il y a une revendication d'appartenance à l'espèce humaine,
oui,
tout simplement, dans l'émeute.
Oui, parce que, encore une fois, le point commun à tout phénomène émeutier, quelles que soient les motivations, plus ou moins explicites ou pas, c'est que la vie des gens est remise en question, la vie de ceux qui vont se révolter est remise en question, la vie de ces jeunes gens qui sont tués par la police de façon vraiment arbitraire, disons le mot, sans être polémique, il est directement question du bout de mort. Mais pour les Gilets jaunes, moi c'est le mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup inspiré mon travail, c'est la mort sociale, l'anéantissement, le fait de ne plus être visible, le fait de mettre ces habits de chantier qui sont faits pour signaler, parler de quelque chose de cet ordre. Et je crois que de ce point de vue, il y a une continuité dans l'histoire. Et alors moi, pour la comprendre, d'ailleurs que je le fais effectivement, je fais commencer les choses avec la guerre des communs, etc. Mais ce moment incroyable de la guerre des paysans, où lorsque les princes allemands vont se remettre ensemble pour mettre fin à ce mouvement incroyable qui s'est passé, en 3 semaines, c'est documenté, hein, c'est pas des chiffres comme ça, ils vont faire plus de 100 000 morts en 3 semaines. Hommes, femmes, enfants, éventrés, tués, on pend à l'entrée des villages, des quartiers d'hommes pour effrayer le peuple. Ce que je veux dire, c'est que depuis ce moment-là jusqu'à nos jours, même si au XXe siècle, si on accepte les deux guerres mondiales, il y a eu une sorte d'euphémisation un peu de ces mouvements et encore, je veux dire que l'histoire, elle est celle d'une très longue, alors ça c'est une idée que moi j'ai reprise à Michel Foucault, d'une très longue guerre civile entre les dominants et les dominés. Si on ne réinscrit pas l'idée de l'émeute dans ce modèle général d'une guerre civile, en tout cas on passe à côté de beaucoup de choses.
Alors éventuellement, justement, Foucault disait dans « Il faut défendre la société », le pouvoir est organisé...
Parlez bien devant le micro parce qu'on ne vous entend pas.
Le pouvoir est organisé de manière que certains puissent défendre leur domination contre la révolte des autres. Voilà, c'est dit en une phrase. Et effectivement, ce qui est frappant, c'est la continuité. C'est-à-dire que, bon, si on peut remonter jusqu'au XIIIe siècle, les tumultes en Italie, bon, et voilà, remonter au XVIe, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, bon, et constater la permanence du phénomène émeutier. Absolument. Bon, effectivement, on peut quand même saisir que on n'est plus autant, des enlèvements d'enfants en 1750 et de la rumeur qu'il avait suscité et qui avait donc donné lieu à des émeutes bien avant la Révolution française. Mais néanmoins, il y a le rôle de la rumeur, par exemple, bon, qui est très important aussi bien à cette époque-là qu'aujourd'hui dans les émeutes, ce que j'appelle les émeutes de la mort en banlieue. Bon.
Mais donc, vous avez employé le mot tumulte, donc on peut dire tumulte, discorde, sédition, tout ça.
Alors,
c'est un
tout
peu
un
de l'ordre...
Émotion populaire, pendant émotion longtemps populaire. On ne disait pas émeute, on disait d'accord. Émotion, ce qui met le peuple en mouvement.
Il y a tout un vocabulaire qui a
parce
été...
Que vous, oui, il y a un conflit d'interprétation.
Alors, il y a un conflit d'interprétation sur les termes, mais ce qu'on peut constater, c'est que quand même, il y a un vocabulaire qui est assez fleuri. Bon. Et bon, on n'est pas obligé de se couper les cheveux en quatre, c'est un univers notionnel relativement homogène par rapport à des événements hétérogènes. Bon, et donc voilà, on peut considérer qu'il y a une espèce de permanence de l'émeute comme étant le court-circuit, la voie d'expression de la colère. Bon, alors avec encore une fois des contextes très 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 différents, mais qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Bon, et ça c'est quand même alors effectivement les dominants dominent. Bon, mais comme le dit aussi Foucault, voilà, là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance. Bon, et l'émeute, la résistance n'est pas que du côté de l'émeute, elle est du côté des mouvements sociaux, de l'action des syndicats, du côté des ZAD, dans les luttes pour l'environnement, dans les luttes féministes aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal.
On peut penser aux FEMEN, par exemple. J'ai pensé.
Absolument. Voilà. Donc, mais c'est quand même, je pense, important de donner quand même à penser et à voir une autre réalité, beaucoup plus conflictuelle, beaucoup moins soumise, beaucoup moins apathique, y compris chez les jeunes générations, que ce que raconte l'idéologie dominante.
Vous êtes bien sur France Inter, vous écoutez L'Heure Philo, Jacques Deschamps et Michel Kokorev sont nos invités et nous parlons, mais ça vous l'aurez déjà compris, de l'émeute, une chanson de circonstance, hein, les clashs.
Of your hands on your head on the trigger of your-
The Guns of Briston, dans leur philo plutôt, le philosophe Frédéric Worms. C'était sur le média brut.
Cette augmentation de la dénonciation, cette augmentation de sensibilité à la violence, et on a raison de la défendre, est un progrès paradoxal. Ce dont il faut se souvenir, c'est que dans les sociétés les plus violentes, dans les dictatures, dans les tyrannies, c'est si violent que vous n'avez même pas le droit de dénoncer la violence. Et donc quand une société est parfaitement calme, quand il n'y a pas de contestation, méfiez-vous, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le pouvoir règne, le silence règne. Il y a ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est quand vous n'êtes même pas capable de... Vous n'avez pas le droit de descendre dans la rue. Et parfois même, vous ne pouvez même plus ressentir la violence. Imaginez une société sans violence. D'abord, il faut le souligner, c'est possible. Mais c'est pas une société sans conflit. On doit lutter pour une société non violente, mais une société qui, pour autant, ne dénie pas les conflits, parce que les conflits sont là. Et quelqu'un qui dit non-violence au sens « aimez-vous les uns les autres », c'est une posture mystique décisive, très importante, mais malgré tout, il faut quand même dire « oui, il faut une société non violente, mais qui reconnaisse qu'il y a toujours des risques de conflit ».
Est-ce que la sensibilité à la violence change en fonction des époques ?
Oui, alors là, il y a un grand sociologue qui s'appelle Norbert Elias, qui a travaillé notamment sur ce qu'il appelait la dynamique de la civilisation, où il montrait comment la sensibilité augmentait, diminuait, se transformait, par exemple, comment les gens, tout d'un coup, se mettent à manger avec des couverts et plus avec les doigts, comment ils se mettent à se laver tout le temps alors qu'ils se lavaient jamais, et comment, effectivement, la sensibilité à la violence augmente, donc il y en a moins. Bon, et effectivement, on peut dire que par rapport à l'émeute, on tout se passe comme si on vivait dans une société pacifiée et que on avait parfois des pointes de violence. Bon, donc c'est pas général. Ça suppose, ça implique une certaine intolérance. Mais ce qui me gêne un peu dans cette lecture de Worms, c'est que il oublie de dire que la tolérance elle est différentielle. C'est-à-dire que on est beaucoup plus intolérant à l'égard d'émeutiers, à l'égard de gens qui commettent des cambriolages que à l'égard de gens qui commettent des fraudes fiscales qui se comptent en milliards. Bon, donc vous voyez la sensibilité collective à l'égard de la violence, bon, qui a été renforcée par MeToo aussi, par les luttes féministes, c'est quand même très très important. On voit bien qu'il y a une mutation qu'il y a peut-être une partie de la France qui s'est sentie vraiment touchée par la mort de Naël. Hein, ça c'est très important. Mais pour autant cette tolérance ou cette sensibilité, elle ne s'exerce pas de la même manière selon les groupes sociaux.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Deschamps ?
Moi, je crois, je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé, parce que c'est l'expression même du rapport entre dominant et dominé. De ce point de vue, et là aussi, je crois qu'on ne comprend pas quelque chose de profond qui se joue dans l'émeute, si on considère que le pouvoir va rencontrer hors de lui, dans le champ social, comme ça, dans les grands ensembles, un phénomène à un moment donné qui s'appelle l'émeute. Comme s'il y avait une extériorité de l'émeute, de la violence populaire au pouvoir. Pas du tout. Pas du tout, je pense, comme beaucoup d'autres, que l'émeute, elle est l'envers de la domination, qu'elle est l'envers d'une violence intrinsèque qui est propre à tout phénomène de domination. D'un certain point de vue, on pourrait presque dire que tout pouvoir produit et fabrique, non pas encore une fois comme quelque chose d'extérieur à lui, mais comme faisant partie de ce qu'il est, l'émeute. En ce sens, donc, je crois pas. Alors, il y a effectivement, comme les mœurs en général, dont parle Elias, il y a des variations dans le temps. Mais je crois que cette espèce de logique entre la brutalité du pouvoir, des dominants, toujours, brutalité immense, physique, morale, esthétique, tout ce qu'on veut, et la violence que les dominés peuvent lui opposer, eh bien, que cette logique, elle, sur le fond, elle ne varie pas. Sartre, je le cite à plusieurs reprises, mais il a cette analyse extraordinaire où il dit « La classe ouvrière au XIXe siècle, donc le siècle des révolutions, avec les grands massacres de 48 de la Commune, est le produit d'une histoire absolument sanglante. Et donc, cette classe ouvrière reste potentiellement le sujet de rébellions terribles à venir. Et je pense que les dominants, ceux qui exercent le pouvoir, sont hantés et obsédés par cette possibilité permanente, d'où l'extrême violence qu'ils vont déclencher. Les gilets jaunes, le petit peuple des gilets jaunes, en sait quelque chose.
Est-ce qu'il y a un orgueil activiste dans la révolte?
Alors si je peux répondre oui, je cite Bachelard parce que c'est un...
C'est pour ça que je vous pose la question.
C'est un de mes pères spirituels, littéralement, que j'ai un peu... J'ai un peu utilisé, je ne sais pas s'il aurait été tout à fait d'accord avec ce que j'en dis, mais je crois vraiment. Il y a ce que dit Benjamin, où quand il parle de ce qu'est l'émeutier, il dit que il ne casse pas l'émeutier pour l'amour de la casse, pour l'amour des ruines, mais pour ouvrir des chemins qui traversent ces ruines. Et c'est là où il y a effectivement quelque chose d'un pathos émeutier qui relève d'une joie dont je pense qu'aujourd'hui, la plus grande partie des peuples sont privés.
Et d'une rêverie constructive.
Et tout ce qui va avec, bien sûr. Ouais.
Alors ça aussi, vous le montrez très bien, d'ailleurs, tous les deux vous en parlez, qu'il y a toujours un élément déclencheur à la révolte, souvenez-vous, puisque nous en avons déjà parlé au cours de cette émission. C'était le 27 juin 2023, Naël Merzouk, qui avait 17 ans, est mort après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Le policier mis en cause avait alors tiré sur lui. À bout portant, c'est un papier donc de France Inter signé Charlotte Piret.
Le parquet écarte la légitime défense invoquée par ce policier, père de famille de 40 ans, qui a assuré dès sa garde à vue qu'il en était ce jour-là à son 9e jour de travail consécutif et s'était senti menacé. J'étais un peu acculé, j'ai cru qu'il allait me renverser. Si j'ai tiré, c'est que je me suis senti en danger. Mais selon le parquet de Nanterre, si le comportement de Naël a bien été particulièrement dangereux et incontestablement mis en danger la vie d'autrui lors de la course-poursuite, ce n'était plus le cas au moment où le policier tire, son véhicule alors bloqué dans le flot de circulation, détaille le parquet dans ses réquisitions en s'appuyant pour son raisonnement notamment sur la reconstitution des faits organisée il y a près d'un an et qui a conclu que Naël n'avait pas donné de coup de volant vers les policiers et que ce sentiment de danger des fonctionnaires était donc infondé. En conséquence, le recours à une arme à feu n'était pas absolument nécessaire selon le ministère public qui réclame donc un procès aux assises pour meurtre pour celui qui, ancien militaire entré dans la police en 2010, aurait dû conserver son sang-froid, toujours selon les termes du réquisitoire, qui écarte en revanche toute responsabilité pour le deuxième policier présent.
Émotion collective après ça, Michel Kokoreff.
Oui, comme toujours dans l'émeute. Encore une fois, l'émeute, c'est la propagation d'une colère, c'est l'expression d'une rage. Mais on dit aussi, on utilise tout un tas de métaphores parce qu'on n'est pas très à l'aise. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'allumette qui met le feu. Et ça, c'est très intéressant. Bon, moi, j'avais fait une enquête avec des collègues en 2006 sur ce qui s'était passé en 2005. Quand on discutait avec...
En 2005, c'était Clichy-sous-Bois.
Après la mort de Ziad Ebouna. Bon, ouais. Quand on discutait avec des petits lycéens, des petits, comme on dit dans les cités, eux, effectivement, ils nous parlaient de ce qui s'était passé pendant cette période. Ça avait duré 3 semaines en 2005, l'automne 2005, mais au fond, il y a un moment où ils confondaient aussi et où ils nous parlaient de ce qui se passait avant, au quotidien. Donc, je parlais des harcèlements tout à l'heure, des contrôles discriminatoires. Bon, il y avait d'autres choses. Bon.
Non, mais ça veut dire qu'il y a une dimension ethno-raciale.
Donc, ça veut dire qu'il y a un continuum dans l'exercice de la violence policière, effectivement, qui a une dimension, là, dans ce cas-là, raciale avérée. Oui, ça, c'est... Et quand on prend tous les noms des jeunes qui ont déclenché des émeutes depuis la fin des années 70, donc c'est parti de Lyon, bon, cette dimension raciale, elle est évidente. C'est des Noirs et des Arabes.
Il y a donc, la marche des beurs. On peut penser... Vous citez, il y a des exemples à foison. On peut penser aussi à George Floyd. Ça, c'était aux États-Unis.
Oui, bien sûr. Alors, le lien, effectivement, entre George Floyd, c'est l'agonie en direct pendant 8 minutes, avec les 37 secondes de la fameuse vidéo qui vaut un renvoi aux assises du policier Florent M. Et donc ça, c'est intéressant aussi à quand même à noter, c'est-à-dire que l'émeute, elle donne à voir quelque chose qui est caché, elle fait entendre la parole de ceux qui ne sont pas entendus, et en même temps, elle joue sur les codes visuels. Elle est visuelle, ce qui renvoie à la discussion sur le spectacle, le rôle des images.
Et la dimension nationale que ça prend.
Alors, ça prend une dimension nationale. En 2005, effectivement, dans 300 villes. En 2023, pendant 6 jours, dans près de 550 villes. Bon. Et 550 villes, là, bon, effectivement, c'est plus local. Bon. Et il y a certaines enquêtes qui montrent qu'il y a un lien entre les ronds-points des Gilets jaunes et l'éruption, l'émergence d'émeutes en 2023. Bon. Alors, est-ce que c'est un peu la même France? Mais, et je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que là, on touche aussi à des difficultés de vie, à une précarité, à des fins de mois difficiles. Bon, c'est-à-dire tous les sujets qui sont absous et invisibilisés par le cadrage en gros sécuritaire, policier hein, du fonctionnement de la société. Bah, en fait, on les voit apparaître quand on essaye de les saisir voilà de près. Donc ça a été une émotion collective, mais c'est pas simplement pour faire de l'émotionnel. C'est-à-dire que derrière il y a du dur. Voilà, il y a une violence sociale qui exercé, il y a des conditions de vie, il y a un sentiment de mépris, au fond dans l'émeute, et il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver là-dedans, il y a une demande de respect, il y a une demande de dignité qui se fait, exactement comme c'était le cas dans les années 60 aux États-Unis. Et donc cette demande de respect, elle vient répondre à une offense, à une forme de mépris opérée par le pouvoir, mais par ses délégués, par ses représentants. Et donc là, il y a toute une économie morale du mépris et de la dignité ou du respect que ne comprend absolument pas la gauche et un certain nombre de partis politiques, ce qui fait que c'est quand même un peu compliqué de comprendre ce qui se passe, dans la mesure où c'est recouvert d'abord par quelque chose qui est disqualifié, la violence de rue, mais ensuite qui s'exprime dans une grammaire qu'on ne comprend pas, parce que la grammaire qu'on comprend, c'est la grammaire des syndicats, des partis politiques, des mouvements sociaux. Et aux États-Unis, on est beaucoup plus sensible, c'est peut-être l'histoire de l'esclavage, à cette dimension de respect, de dignité, d'où le mouvement Black Lives Matter, par exemple.
Mais Jacques Deschamps, vous montrez très bien dans votre essai que la foule, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, elle est toujours considérée comme délinquante, séditieuse, dangereuse, que le peuple est une masse informe, que l'émeute, c'est une masse, et que la masse, ce sont des corps agglutinés les uns aux autres, qui ne se connaissaient pas avant, qui s'éloigneront les uns des autres après, mais qui ne font le temps de l'émeute qu'un seul corps. Et ça fait très peur et c'est encore une fois spectaculaire.
Oui, deux choses. D'abord, il y a ce fait qui est quand même extrêmement frappant, je pense à cette scène à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, que dans le discours qui va dénoncer...
De Naël, vous parlez de
oui,
ça
enfin, ou de... en général,
oui, en général.
Je veux
oui.
dire que ces jeunes-là, ou les Gilets jaunes, mais ces jeunes particulièrement dans les banlieues, littéralement, dans le discours du pouvoir, ils sont quasiment animalisés. C'était quand même le sens de ce fameux tract-là du syndicat Alliance, qui disait textuellement « ces jeunes sont des nuisibles ». C'est quand même hallucinant de pas entendre le rapport immédiat avec la rhétorique nationale-socialiste. Les nuisibles, c'est les poux, les lentes, les cafards, etc. Et nous, policiers, notre devoir, c'est de les écraser. Je veux dire qu'il y a ce phénomène aussi dans le rapport de force, où le dominé est toujours en passe d'être disqualifié de sa propre humanité, animalisé. C'est pour ça qu'on va pouvoir lui faire subir ce qu'on veut. Parce que dans les multiples faits divers, il y en a eu quand même d'atroces. Vous rappelez ce jeune homme qui s'est fait littéralement défoncer la région anale par la matraque d'un policier. C'est pas quelque chose de réflexe qui serait malvenu. C'est qu'il y a une volonté. Cette déshumanisation, il me semble qu'elle est capitale. Et elle renvoie à quelque chose. C'est pour ça que moi, dans le livre, j'ai essayé de mettre ça, de le faire résonner un peu avec les analyses de Frantz Fanon sur ce qui se passait dans les relations de pouvoir, dans les colonies, parce que je pense que, et il me semble que dans le livre de Coquerel, c'est bien argumenté et bien documenté, il y a quelque chose qui reste de non résolu du passé colonial de la France. Il y a toujours, entre le pouvoir central et ces jeunes là-bas, dans ces cités perdues, comme s'ils étaient dans le Djebel, je ne sais pas où, qui relèvent d'une relation de ce type. Voilà. Et c'est ce qui fait la complication qu'on ne trouvait pas. C'est pour ça que pour moi, ça a été plus simple de penser à partir des Gilets jaunes, parce qu'on ne le trouvait pas dans ce cas-là. Il s'agissait d'une autre sorte de relégation.
Michel Foucault, c'est une archivina qui date de 1976.
On nous a fait croire, on essaie de nous faire croire encore maintenant, que nous vivons dans une société juridique où règne la loi. l'importance du législateur, l'importance politique du législateur, nous est enseignée dès l'école primaire. Or, moi, il me semble que la loi est finalement une sorte d'institution dont la désuétude ne cesse de se marquer davantage. Il est vraisemblable que le respect de la loi, l'importance de la loi, ça a été un instrument politique important dans la lutte contre la monarchie, contre le pouvoir absolu, contre son arbitraire. Mais que maintenant, autrement dit, elle a eu une importance négative, la loi. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui n'est pas de la loi, mais qui est de la norme.
Quelle différence vous faites entre les deux ?
Eh bien, tout simplement, c'est que la loi fait un partage binaire. C'est-à-dire, il y a ce qui est légal et ce qui est illégal. Bon, la norme, au contraire, elle établit des gradations. On peut être plus ou moins normal, plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné de la norme. Deuxièmement, la loi n'intervient que dans un certain nombre de cas déterminés, qui sont les cas d'infraction. La norme, au contraire, elle intervient tout au long de votre vie. Vous êtes normal ou pas à l'école, vous êtes normal dans la manière dont vous marchez dans la rue, vous êtes normal dans votre situation de famille, vous êtes normal ou pas quand vous faites l'amour, etc. La loi, elle vous lâche souvent, ou elle n'intervient que de temps en temps. La norme ne vous lâche jamais.
Michel Foucault, Michel Kokorev, je vois à votre sourire que vous êtes content, très heureux même entendu Michel Foucault. J'ai même pris des notes.
Je suis fasciné par l'énonciation de Foucault, la façon dont, et en même temps évidemment ce qu'il dit. Oui, la différence entre la loi et la norme. Voilà, bien
et
vu.
Et l'émeute, alors elle se place où là? Elle est hors norme, elle est inclassée.
L'émeute, elle est toujours considérée comme illégitime, donc elle est disqualifiée. Les émeutiers sont des sauvages, ils sont animalisés, déshumanisés. Bon, donc ça, voilà. Mais il y a une légitimité de la violence de rue. Il y a une légitimité politique de la violence de rue depuis justement le 19e siècle. Bon, alors il y a une historienne qui a essayé de montrer, je trouve que c'est une piste intéressante, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé depuis quelques années où la violence de la rue n'a plus sa légitimité parce que jusqu'alors il y avait quand même quelque chose qui s'appelait la résistance et qui maintenait une certaine légitimité à une violence là, en l'occurrence contre l'occupant. Bon, ça c'est tombé. Mais évidemment, la loi fait tout pour punir les émeutiers, les mettre en prison, les sanctionner, attaquer au portefeuille, va utiliser les bailleurs sociaux pour expulser les familles des émeutiers. Bon, voilà. Donc, on voit bien que cette espèce de d'essaimage normatif de la société disciplinaire qu'a décrit Foucault, bon, elle fonctionne pendant l'émeute et après l'émeute, et sans qu'on sache si le policier Florent M. Sera certes renvoyé devant les assises, mais condamné. Donc la loi, elle est aussi évidemment à géométrie variable. Elle est le voleur de poules, il sera plus sévèrement puni que le fraudeur fiscal. Bon, ou qu'un certain nombre de policiers. Bon, après il y a débat sur le sentiment, l'impunité policière aujourd'hui.
On va parler d'autre chose. On va parler d'amour. Vous êtes d'accord?
Ah bah oui.
Découvre-toi, couvre ma bouche comme l'autre fois. De parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je parler d'amour, parler. Thank you.
c'est bien. Tes doigts, quelle bonne idée de parler d'amour, parler d'amour, parler d'amour, je veux parler d'amour,
Zao de Sagazan, parler d'amour. Tiens, ce serait bien qu'elle vienne un jour avant l'été, nous parler de philo, parce qu'il paraît qu'elle adore la philo. Alors, nous avons commencé cette heure philo avec Victor Hugo, mais on va presque la finir, il nous reste quand même un petit peu de temps encore, avec Albert Camus, tiens donc.
La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
Le nihilisme contemporain qu'évoque Albert Camus, Jacques Deschamps, vous, dans votre essai, vous parlez d'enlaidissement général.
Oui, je pense que c'est quelque chose à partir de quoi on peut comprendre pas mal de réactions. Moi, j'ai vraiment le sentiment, mais qui est, je crois, très partagé, que le système dominant a pour logique, qui est encore une fois aussi un instrument de pouvoir, mais un enlaidissement absolument de tout.
Et d'aplatir nos existences, parce que vous parlez d'existence aplatie.
Oui, bien sûr, parce que je crois, alors c'est devenu une tarte à la crème, le fameux passage de Spinoza où il parle du gouvernement par les passions tristes, mais je crois que jamais on n'a été aussi loin de ce point de vue. C'est très frappant de voir comment toute l'histoire du capitalisme s'est accompagnée d'un travail forcené pour supprimer tous les accès à la fête, à la joie populaire. Il y a je cite un texte étonnant de la fin du 19e, d'un parlementaire qui fait l'état un peu des humeurs du peuple et qui revient en disant qu'il a vu un peuple triste, fermé sur lui-même, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un peuple animé par la fête. Et je veux dire que c'est pas un effet secondaire comme ces espèces d'horribles centres commerciaux qui à la fin de toutes les villes, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à ça, intrinsèquement lié à un système qui a pour principe la marchandisation de tout. Voilà. Et je crois que en face de ça, et c'est un peu ce que je défends moi dans le dernier chapitre de mon livre qui est un peu fantaisiste, mais j'appelle l'émeute au ralenti, je crois qu'on a individuellement un travail mais de résistance quotidien à faire la contre. Résister aux passions tristes. Moi, je suis effrayé par le nombre des personnes autour de moi qui ont la même histoire que moi qui sont, c'est comme s'ils avaient perdu. parce que c'est foutu, on est dans un monde, il y a la surveillance partout,
on ne pourra
plus s'en sortir, voilà, on baisse les bras. Et je crois que c'est terrible de faire ça. Et précisément ce qui se passe dans l'émeute, il y a un moment de régénération extrêmement puissant et qui est forcément joyeuse.
Voilà, il y a quand même une joie de l'émeute aussi.
Ah, il y a une joie, bien évidemment.
Mais la répétition, ça vous le dites, Michel Coquereb, dans votre livre, la répétition des émeutes vous interroge, hein?
Oui, parce que, enfin, dans un certain nombre de cas, c'est le même script. C'est pas que il y a des émeutes qui se répètent, c'est que les émeutes ont toujours le même événement déclencheur. Si on prend en tout cas les émeutes urbaines, les émeutes dans les banlieues. Bon, enfin, ça fait quand même 40 ans que ça dure. Donc, il n'y a pas que celle-ci, mais elle joue un rôle important. Et c'est toujours selon le même script et le même scénario. Et rien ne change. Quand on dit que l'émeute ne règle rien, c'est que, effectivement, rien ne change jusqu'à la prochaine fois. Oui. Jusqu'au prochain Naël. Comment s'appellera le prochain Naël? Bon, alors, le prochain mort, il faut pas le souhaiter, mais ça ne donnera pas lieu forcément à une émeute, mais voilà, à partir du moment où les conditions restent les mêmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, juste pour embrayer aussi sur ce que disait Jacques Deschamps, c'est que, effectivement, le monde réel, il est terne, il est gris, il est dominé par le travail. Bon, ça permet de comprendre cette espèce d'aplatissement émotionnel, de grisaille du quotidien. Ça permet de comprendre à contrario le sens de l'émeute parce que, au fond, ou de l'action collective, ça réveille les passions, les affects. Bon, et on pourrait penser que tant qu'il y a encore cet antagonisme, tant qu'il est encore possible, rien n'est perdu. Rien n'est pas en tout cas, c'est pas qu'il y a de l'espoir. Bon, évidemment, mais en tout cas, il y a un différentiel d'intensité entre la vie qu'on nous propose, bon, et en même temps ce qui est potentiellement en jeu dans les meutes, dans les gilets jaunes, dans
et
tel ou tel mouvement.
L'homme révolté est un homme vivant.
L'homme révolté ne fait pas que de survivre. C'est comme la pivoleuse. Les pauvres n'ont pas le droit simplement à survivre. Ils ont le droit de manger des huîtres. Et ben c'est pareil.
Moi, je crois qu'il y a là quelque chose d'important à comprendre. Je pense que l'émeute est quelque chose qui devient de plus en plus probable. Si c'est vrai, s'il est vrai que l'émeute commence toujours par le fait que la vie des gens est remise en question, on vit une situation absolument inédite. Jusqu'à maintenant, tous les combats révolutionnaires ont eu lieu au nom de valeurs, valeurs morales.
Aujourd'hui,
morale,
la crise,
politique.
Elle est partout, elle est économique, elle est écologique,
mais surtout,
elle est
psychique. Elle est vitale. Je veux dire si on se met dans la tête des jeunes gens aujourd'hui, à qui tous les jours on raconte comment, à l'horizon 2030, 2050, ils vont être devant le mur de l'effondrement écologique, que pour la première fois dans l'histoire de l'espèce humaine, la pérennité de cette espèce est remise en question. Tous les jours, on lit ça dans la presse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes gens? Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Aucun imaginaire possible, qui est le propre de la jeunesse.
Mais on le dit souvent que les jeunes ne vont pas bien.
Non. Eh ben, je pense que soit ils vont effectivement aller vers la dépression généralisée, soit, et j'espère qu'il y en aura suffisamment, qui iront vers l'émeute.
Alors, je voudrais bien que vous nous racontiez, si vous le voulez bien, pour clore cette émission définitivement, en tout cas pour l'instant, que vous nous racontiez, Jacques Deschamps, l'histoire de Gustave Courbet, qui a présidé la Fédération des artistes de la Commune de Paris. Et en avril 1871, il publie un manifeste.
Oui, ça illustre parfaitement cette idée de la joie dans les séquences révolutionnaires et émeutières, puisque ce regroupement d'artistes a eu cette idée de promouvoir ce qu'ils appelaient le luxe municipal, à savoir que la beauté, au sens esthétique du terme, était enfermée dans les musées ou dans les salons des grandes demeures bourgeoises, mais que le peuple n'y avait pas accès. Et c'était comme une espèce de programme de mettre en place partout dans le pays, au niveau architectural, au niveau de l'équipement urbain, des belles choses.
Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Courbet?
Eh bien, il a dû fuir on voit son dernier tableau en Angleterre, et il est mort quelques 6 mois après, brisé de douleur.
Et la semaine sanglante a dissous la commune.
Merci beaucoup à tous les deux. Éloge de l'émeute, Jacques Deschamps, s'est publié au Lien qui libère. Émeute, Michel Coquereb, s'est publié aux éditions Anamosa dans la collection Le mot est faible. Merci à tous les deux.